Chapitre 34. Après cette audience, dit Isadora, considérant ce que nos ennemis risquaient de faire avec les cadavres et avec les âmes qu'ils gardaient dans le monde des vivants, je décidai d'aller effectivement demander de l'aide au sorcier Mérite. Magda aimait de moins en moins la façon dont tournait cette histoire. Un sorcier avait pris ses yeux à Isadora et Mérite, de toute évidence, trempait jusqu'au cou dans les expériences magiques visant à transformer les êtres humains. Certaines modifications étaient mineures, il fallait le reconnaître, mais quand on songeait à une abomination telle que la Slif... Quand je me suis mis à interroger les gens afin de trouver Mérite, je découvris qu'ils ne le prenaient pas pour un fantaisiste, ils avaient peur de lui. Magda fut surprise par cette information, surtout après la façon dont les conseillers avaient ridiculisé le sorcier. Parce qu'ils transformaient les gens en armes? Aussi, oui, mais pas seulement. Ils ont peur de lui parce qu'il est un inventeur. Un inventeur? Tu en es sûr? Les créations de cette catégorie de sorciers, les inventeurs, terrorisaient souvent les gens et pour de très bonnes raisons. Les inventeurs, Magda le savait, étaient très rares et on ne les voyait en général pas d'un bon œil. Maintenant, elle comprenait mieux le recul instinctif des conseillers.
C'est un de ses pouvoirs, oui. Il crée toutes sortes de choses. De jolies reliures bardées de sorts défensifs afin de protéger les grimoires, des lames qui coupent mieux que l'acier le plus fin, des artefacts métalliques que je serais incapable de décrire, mais qui t'arracheraient un cri admiratif. Il sculpte même dans le marbre des statues d'une beauté à couper le souffle. Chez lui, le sol était jonché d'objets à l'utilité mystérieuse. Des couteaux étaient empilés sur une table, une autre ployant sous le poids de magnifiques épées. Je n'avais jamais vu un endroit pareil, à part peut-être une forge, mais en plus propre et distingué, bien sûr. Je sais ce que c'est. Barakus aussi était un inventeur, même si on l'appelait rarement ainsi.
Vraiment? Ton mari était un sorcier de guerre et un inventeur?
Oui. Mais quand je l'ai épousé, il était déjà premier sorcier, et dans l'esprit des gens, c'était son unique titre.
En réalité, c'était pour ne pas le nommer inventeur que les gens l'appelaient premier sorcier.
Malgré son poste et ses responsabilités, continua Magda, mon mari inventait des choses à jet continu. La nuit, il s'asseyait à un établi et fabriquait les objets les plus complexes que j'aie jamais vus. De très beaux objets, mais pour une partie en tout cas, des armes terriblement dangereuses. Peu après notre mariage, je lui ai demandé pourquoi, avec sa charge de travail, il prenait le temps de suer sang et eau devant un établi.
« Parce qu'un inventeur, me répondit-il, ne pouvait pas s'en empêcher. » C'est bien ça, oui. La créativité les caractérise dans l'ensemble de leurs activités.
Lorsque Barakus lui avait dit qu'il était un inventeur, Magda avait dû avouer qu'elle ne savait pas trop ce que ça signifiait. À cette époque, bien des choses qui le concernaient étaient un mystère pour elle. Très patiemment, il lui avait expliqué que le don se manifestait de manière différente chez chaque individu. Un sorcier de guerre, avait-il précisé, bénéficiait d'une sorte de palette de pouvoir. Magda n'avait pas caché sa surprise. Pour elle, être un sorcier de guerre était déjà un extraordinaire don en soi. Souriant, Barakus lui avait expliqué qu'il ne s'agissait pas d'une aptitude spécialisée, mais d'une combinaison de talents. Très souvent, les prophéties guidaient les actes d'un sorcier de guerre. S'il fallait se battre, il pouvait élaborer une stratégie, brandir une épée ou transformer sa colère en un pouvoir destructif. Devant des blessés, il était également capable d'en faire une force thérapeutique. Dans son cas particulier, s'il fallait une citadelle pour défendre des innocents, Barakus était en mesure de la construire, fortification et défense comprise, parce qu'il était un inventeur. Ce pouvoir-là, ajouté à bien d'autres, faisait de lui un sorcier de guerre. Le regard brillant, Barakus avait ajouté que les inventeurs étaient bien plus que des sorciers. À ses yeux, c'étaient des artistes, et on en trouvait aussi peu parmi les pratiquants de la magie que parmi les gens normaux. En ce monde, beaucoup de personnes croyaient être des artistes, mais bien peu méritaient ce nom. Être un artiste, affirmait Barakus, permettait aux inventeurs, en tout cas aux meilleurs, d'utiliser la magie d'une manière créative que leurs collègues n'auraient même pas imaginée. Tous les nouveaux sortilèges et tous les nouveaux usages qu'on trouvait aux anciens étaient d'abord conceptualisés par des inventeurs.
C'était en partie pour ça qu'on les redoutait. Parce qu'ils étaient capables de concevoir et d'invoquer des forces inédites, on les tenait pour des êtres dangereux. En ce monde, la nouveauté n'était jamais très bien accueillie. Quand il s'agissait de magie, on avait tendance à la rejeter sans réfléchir. « Sans inventeur, soulignait Baracus, la magie aurait stagné et tourné en rond. Les rares découvertes étant accidentelles, tout aurait reposé sur un carcan de règles, de formules et de protocoles. Privé d'imagination créative, un domaine ne se développait pas et n'apportait plus rien de neuf au monde. Sans les inventeurs, pour leur ouvrir la voie, les sorciers et les magiciennes auraient été condamnés à faire et à refaire inlassablement les mêmes choses. Toute sa vie, Magda avait entendu dire qu'il fallait suivre des procédures strictes pour utiliser convenablement la magie. Pour elle, c'était un peu comme le travail d'un boulanger. S'il ne suivait pas les règles, les formules et les protocoles, comment les inventeurs pouvaient-ils être de bons sorciers? Amusé, Baracus lui avait demandé d'où venaient, selon elle, les règles, les formules et les protocoles. Qui les avait imaginés puis mis au point? Des inventeurs. Oui, des inventeurs qui créaient des formes de magie que les autres utilisaient ensuite, les copiant fidèlement. Les découvertes les plus révolutionnaires, avec le temps, devenaient des classiques qu'on croyait gravés dans le marbre, mais tout ça était d'abord sorti du cerveau d'un inventeur. Les sorciers dépourvus d'imagination, eux, suivaient des recettes sans même se poser la question de leur origine. Quand il abordait ce sujet, la voix de Baracus vibrait de passion. Créer était aussi naturel pour lui que respirer. C'était son étincelle de vie, tout ce qui lui donnait son enthousiasme et sa force. « Sans les inventeurs, disait Baracus, la magie aurait toujours été limitée à des sortilèges mineurs qu'on aurait copiés jusqu'à la fin des temps. Créer à partir du néant est un don rarissime. »
Isadora eut un petit sourire.
C'est le secret de la magie, que bien des gens, y compris parmi les détenteurs du don, ne comprennent pas. Les créations d'un inventeur sont tellement copiées qu'on finit par oublier qu'elles ont été un jour originales. Quand on connaît un sortilège depuis toujours, on a du mal à imaginer qu'il n'existe pas depuis le commencement des temps.
C'est parce que les inventeurs authentiques sont très rares.
Tu n'es pas une personne banale non plus, Magda Cyrus. On dirait que tu en sais plus sur tout ça que bien des sorciers et des magiciennes.
Sans l'enseignement de Baracus, je n'aurais pas mesuré l'importance des inventeurs. Ce sujet lui tenait particulièrement à cœur.
Il fabriquait de si belles choses. J'ai gardé ses outils.
Depuis sa mort, je vais parfois m'asseoir à son établi et je les prends en main parce qu'ils sont tout ce qu'il me reste de lui.
Je regrette de ne pas l'avoir connu,
fit Isadora avec un de ses sourires lointains.
Cela dit, certaines de ses créations me terrifiaient.
Vraiment? Lesquelles?
Eh bien, par exemple, au début de la guerre, il a fabriqué une superbe amulette en métal précieux dans laquelle était enchâssé un rubis. Bien qu'il fût un chef-d'œuvre, ce bijou incarnait des concepts philosophiques dont le plus simple me dépassait. Baracus le portant jour et nuit, je savais cependant que c'était des choses essentielles pour lui. Une nuit, après qu'un de ses sorciers lui eut appris des nouvelles inquiétantes, je l'ai vu de nouveau trouvé devant la fenêtre, les yeux rivés sur la lune. Comme souvent, il pensait au temple des vents, désormais exilé dans le royaume des morts. Voyant qu'il serrait l'amulette dans son poing, j'ai osé lui demander ce que ce bijou représentait pour lui. Au début, j'ai cru qu'il ne répondrait pas. Mais il a fini par dire que l'amulette symbolisait la danse avec les morts. Devant ma surprise et mon angoisse, il a ajouté que la danse avec les morts était la raison d'être d'un sorcier de guerre. Cette nuit-là, je suis resté avec lui assis sur le sol, lui toujours debout à admirer l'astre nocturne. Le dos appuyé contre le mur, je lui ai tenu la main tandis qu'il serrait l'amulette dans l'autre, perdu dans ses pensées les plus secrètes. C'était un homme remarquable. Sur bien des points, je ne le connaissais pas vraiment, et voilà qu'il s'en est allé pour toujours.
Isadora tapota le bras de Magda.
Mais j'espère que tu connaîtras bientôt son esprit, mon ami, reprit la jeune veuve. Au moins assez pour me fournir les réponses que je cherche, ou m'orienter sur la bonne piste.
Isadora serra gentiment le poignet de son ami.
Nous découvrirons tes réponses, Magda. tu as réussi à trouver la personne qu'il te faut. Quelqu'un qui possède la vision dont tu as besoin.